On avait eu le plaisir, il y a quoi, deux semaines, d'accueillir en studio l'auteur, conférencier, analyste, chroniqueur, Marc-André Leclerc. On avait jasé de son... on avait jasé de hockey.
Ouais.
Puis de son nouveau livre, Le hockey, mise en échec. Puis là, on s'était dit... c'était le fun, jaser de hockey, là, puis de son nouveau livre, mais pourquoi pas jaser de politique, puis d'élection américaine, puis du résultat qu'on a connu officiellement ce matin, donc la victoire de Donald Trump pour ce qui est de la présidence des États-Unis. Donc, il est en studio avec nous, Marc-André Leclerc. Comment ça va?
Ça va très bien, vous autres?
Ça va très, très bien. Et tu, commençons de même. Mm. C'est officiel ce matin. On a vu la tendance hier soir, un peu plus tard. Es-tu étonné par la victoire de Donald Trump?
Non. Ben, tu sais, Mané, c'est facile de dire ça après coup, là, mais moi, j'ai la chance de me prononcer dans les médias tous les jours. Là. Puis hier midi, au TVA midi avec Julie Marcoux, tu sais, elle m'avait dit, Marc-André, pour qui tu penses, d'après toi, qui va remporter? Puis j'ai dit, il faut regarder les chiffres. Tu sais, Mané, c'est pas une question, tu sais, la politique, c'est pas une question juste d'émotion. Là, tu sais. Puis quand tu es analyste comme moi, ben, c'est pas juste de dire, tu sais, j'aimerais ça qu'un tel gang ou un tel perde ou peu importe. C'est de dire, regardez, qu'est-ce que tu as devant toi? Et Donald Trump, hier, avant le vote, il y avait des meilleurs résultats de sondage qu'en 2016 et 2020. Fait dans cette situation-là, quand tu regardes les chiffres, quand tu regardes vraiment le côté rationnel, ben pour moi, c'était avantage Donald Trump. Ce qui me surprend un peu, c'est comment il va être même plus fort qu'à sa victoire probablement en 2016, une fois qu'ils vont avoir fini tous les États. Là. Mais présentement, il mène dans tous les États clés. Donc vraiment, peut-être une mauvaise soirée, une mauvaise journée hier là, pour les sondages.
J'allais parler de ça, des sondages. C'est-tu une soirée perdante pour la crédibilité des sondages?
Oui, totalement, moi je trouve. Parce que dans un sens, on disait par exemple à Pennsylvanie, là, c'est 50-50, puis finalement Donald Trump a gagné l'État avec 2,5-3 points d'avance. Donc si on nous avait dit au cours des dernières semaines qu'au niveau national, ça allait, ben là, on va voir le final, mais présentement c'est 51-47 pour Donald Trump. Si on nous avait dit ça, on aurait dit, ben, la course est terminée. Là.
Ouais.
Présentement, ils nous avaient dit qu'après 2016 et 2020, ils avaient corrigé les modèles. Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce que vraiment les gens répondent? Est-ce que c'est plus difficile de rejoindre les gens? De quelle façon on le fait? Par Internet, par ligne téléphonique? Mais clairement, des fois, ils ont des bonnes soirées, mais clairement, hier, c'est pas une bonne soirée pour eux. Là.
Ça fait deux fois qu'on se trompe dans les sondages avec Donald Trump. Peut-être deux fois de façon évidente. 2016 avec son duel contre Hillary Clinton.
Ouais.
Et là, contre Kamala Harris. Est-ce que, justement, le fait que Donald Trump soit si polarisant fait en sorte que peut-être même que les sondeurs y croient pas à ces élections-là de Donald Trump?
Oui, effectivement, ou peut-être que les gens le disent pas non plus. Tu sais, c'est pas toujours bien vu de dire qu'on va voter républicain. Même chose, hein, on a vu ça dans le passé avec Stephen Harper ici au Canada. Hein. Les gens disaient moins facilement dans les sondages qu'ils votaient conservateurs. Là. Puis M. Harper s'est ramassé avec quelques gouvernements, dont un gouvernement majoritaire en 2011. Là. Donc oui, souvent, les gens versus les gens qui appellent versus le fait qu'ils répondent par Internet puis ils vont dire, il y a quelqu'un qui va voir mes réponses, ben ils sont plus susceptibles de voter comme les gens normalement devraient voter dans leur entourage.
Fait que dans le fond, c'est comme quand on me demande tu prends combien de bières par semaine, puis je suis 3-4.
Ouais.
C'est la même affaire.
C'est comme si on demande à quelqu'un c'est quoi ton poids. C'est sûr que la personne va tricher.
Ah, j'aime ça! Hey, Marc-André, si on se base sur le premier mandat de Donald Trump, et pour essayer de prédire un petit peu comment ça va se passer pour les prochaines semaines, mois, les années, pour les relations entre le Canada et les États-Unis, mettons économiques ou autres, qu'est-ce qu'on peut prévoir?
Bien, c'est sûr que la grosse différence, c'est qu'en 2016, on ne connaissait pas Donald Trump. Pour le gouvernement, exemple, canadien, là, quand tout le monde pensait que c'était Hillary Clinton qui allait remporter. Fait qu'en 2016, c'est Donald Trump qui est élu. Dans l'entourage, c'est Justin Trudeau qui était premier ministre. Il est encore aujourd'hui, mais il était déjà en poste depuis 2015. On n'avait pas de contact. T'sais, c'est qui l'entourage? Au-delà de Donald Trump, l'individu, là. C'est qui son entourage? Qui va être ses secrétaires d'État ou ses secrétaires au Trésor, tout ça? Fait qu'il y avait tout cet apprentissage-là, à trouver des numéros de téléphone, à créer ces contacts-là. La grosse différence aujourd'hui, c'est que on connaît la bébite, là,
t'sais,
au gouvernement, les gouvernements, les relations, l'ambassade canadienne à Washington... Exemple, les délégations également du Québec. Là. T'sais, une délégation du Québec, par exemple, à Washington, à New York, également du côté de Los Angeles, ben, ils connaissent c'est qui les républicains, puis ils connaissent l'entourage de Donald Trump. Parce que ce qui est arrivé, c'est que avant 2016, le gouvernement canadien, le gouvernement québécois avait des relations avec les républicains. Là. Mais là, Donald Trump, c'est pas un républicain comme les autres. Mm-hmm. Lui, il est arrivé avec son propre monde. Fait que ces relations-là sont là. Puis tout le monde sait depuis longtemps que c'est serré, que c'était possible qu'il remporte. Fait qu'on est dans une... Tu sais, en termes de relations, ouais, c'est différent. Cependant, c'est sûr que lorsqu'on regarde, tu sais, durant la campagne, on a parlé beaucoup de choses à part des politiques, là. Beaucoup, c'est une course de personnalité. Puis, mais lorsqu'on regarde les politiques de Donald Trump, c'est sûr que le protectionnisme va revenir en force. Ouais. Cependant, même si ça avait été Mme Harris, le protectionnisme serait revenu également en très grande force. Il faut toujours garder en tête que lorsque Mme Harris était au Sénat, lorsqu'on a renégocié l'ALENA, elle a voté contre. Là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, cette idée-là du protectionnisme qui est seulement Donald Trump également est là avec... aurait été là également avec Mme Harris. Mais c'est clair qu'il va y avoir des guerres au plan commercial. Il veut imposer des tarifs. C'est sûr qu'on a des mauvais souvenirs pour l'acier, ouais, l'aluminium, les transformateurs énergétiques, électriques. Donc oui, ça, il y a un risque très, très grand par rapport
Justin
à ça.
Justin Trudeau a justement mentionné là, dans son long message les gains qui avaient été faits dans l'accord Canada-États-Unis-Mexique, ouais, au moment que Donald Trump était président des États-Unis. Est-ce que justement que cet accord-là ait déjà été signé fait en sorte que on part avec de bonnes relations?
Oui, on part de bonnes relations. Cependant, ce qui arrive, c'est que là, c'est M. Trudeau va être un peu pris par le calendrier parce que il y a comme une révision là, dans le mécanisme de l'accord qu'on a signé, du nouvel accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, il y a tout un processus de révision de l'accord qui arrive en 2026. Le gouvernement fédéral vient de terminer une espèce de consultation auprès des Canadiens, savoir « êtes-vous content, entre guillemets, êtes-vous content de l'accord qu'on a signé il y a quelques années, lorsque M. Trump était au pouvoir? » Et là, il est en révision. Fait que là, comment Donald Trump va arriver dans ce processus-là avec son équipe de dire révision, d'ajustement, ça aussi, là. Bon, le Canada, on a comme, tout le monde a comme, tu sais, avant qu'on révise l'ALENA, tout le monde dit, ah, tu sais, ça va être le pire va arriver. Donc, on était comme content de ne pas avoir trop perdu, de ne pas avoir fait trop de concessions. Là, est-ce que la révision va être encore un enjeu? Ça risque que ça va être un défi. Mais on n'a pas le choix, tu sais, puis M. Trudeau n'a pas le choix. Et c'est Brian Mulroney qui disait ça. J'ai eu la chance de partager un souper avec M. Mulroney à l'hiver 2019 qui disait, tu sais, quand tu es premier ministre canadien, tu as deux priorités. C'est l'unité du pays puis tes relations avec les États-Unis. Fait que, tu sais, Justin Trudeau n'a pas le choix. Ça va redevenir une priorité pour lui. Il y a beaucoup de rumeurs présentement, vu que plusieurs ministres libéraux de Justin Trudeau qui ne reviennent pas, qu'il va avoir un remaniement. Est-ce que M. Trudeau pourrait profiter, à la suite de l'élection de Donald Trump, pour remanier son conseil des ministres et de changer les joueurs qui vont avoir des relations directes avec les États-Unis pour s'assurer que la relation se passe bien?
Marc-André, regardons dans notre boule de cristal, puis allons-y avec une victoire des conservateurs aux prochaines élections fédérales ici au Canada. Comment tu vois, toi, éventuellement, peut-être, la relation entre des conservateurs canadiens, donc M. Poilievre, et le gouvernement américain mené par Trump?
Ce qui est super intéressant, c'est en début de semaine, il y a un sondage qui a été fait par l'Institut Fraser sur par rapport à qui, entre M. Trudeau et M. Poilievre, qui serait la meilleure personne pour faire face à Donald Trump. Okay. Et c'est Pierre Poilievre qui remporte avec 38 % pour M. Trudeau, 23 % Fait que dans l'image actuellement de l'électorat canadien, des Canadiens, si, là, ça a été fait avant le vote, mais avec un Donald Trump au pouvoir, c'est Pierre Poilievre qui est le mieux placé pour faire face à Donald Trump et défendre les Canadiens. Parce que ce qui est clair, c'est que pour Justin Trudeau, quand M. Trump est arrivé en 2016, il a mis l'espèce de cap d'étant, tu sais, de capitaine Canada. Mm-hmm. Tu sais, je veux défendre les intérêts canadiens dans l'ALENA qu'on parlait tout à l'heure. Est-ce que M. Trudeau a encore la même image aujourd'hui, selon le sondage-là? Non. Tu sais, je veux dire, le fait de l'usure du pouvoir, tout ça. Ce qui concerne M. Poilievre est très préoccupé présentement par rapport au fait que Donald Trump, au-delà des tarifs qu'il veut peut-être imposer sur les biens et les services provenant du Canada, puis on parle, tu sais, quand on parle des relations importantes, là, c'est entre 3 et 4 milliards par jour de biens et services qui traversent la frontière. Énorme. C'est énorme, là. C'est notre, tu sais, quand on dit c'est notre partenaire commercial numéro un, ça, c'est clair, là. Tu sais, quand les États-Unis ont la grippe, le Canada, on a le rhume, là. On est interreliés. Fait que M. Poilievre, présentement, ce qui le préoccupe beaucoup, c'est vraiment par rapport au fait que Donald Trump va faire en sorte que les États-Unis soient encore plus productifs. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir encore des baisses d'impôts pour les sociétés? Il va vouloir attirer des capitaux. Il va vouloir attirer des entreprises en sol américain, renforcer la frontière.
Ça se fait au détriment du Canada.
Et ça se fait au détriment du Canada, parce que quand tu es une multinationale où tu dois t'implanter en Amérique du Nord, où tu as à choisir ton environnement, bien, est-ce que c'est l'environnement canadien en termes d'avantages ou c'est l'environnement américain? Donc, ça va peut-être forcer, ça peut forcer également Justin Trudeau, mais ça peut forcer un futur gouvernement conservateur à justement être plus productif, okay, puis à donner un environnement meilleur pour les entreprises.
On parle des relations Canada-États-Unis. Parlons des relations Québec-États-Unis. Oui. J'ai posé la question tantôt à notre chroniqueuse politique, Jacinthe Varel, puis elle a trouvé que ça n'avait pas de maudit bon sens. Fait que je suis curieux d'entendre maintenant ce que tu en penses. François Legault, ce matin, qui est réveillé, clairement, il a tweeté quelque chose. Il a retweeté un tweet hier de Benoît Charrette qui parle de l'État de Washington qui se prononçait hier sur le marché du carbone. Et François Legault a tweeté « L'État de Washington se joindrait à la Bourse du carbone Québec-Californie. Bravo, Benoît », en référence à Benoît Charrette. À quel point c'est une erreur puis à quel point ça se fait pas de tweeter quelque chose, surtout en lien avec les États-Unis, sans féliciter d'abord Donald Trump pour son élection?
Oui, donc c'est vraiment surprenant. C'est vraiment surprenant de voir que M. Legault, ce matin, tu sais, je pense que c'était dur à manquer hier, là, que c'était l'élection américaine.
D'après moi, il est au courant.
Je pense que tout le monde est au courant, même si on ne votait pas à cette élection-là. Moi, j'aime toujours ça, se rappeler un peu de ça. Tu sais, t'as bien beau écouter... On avait beau écouter durant la convention démocrate Tim Walz, là, c'est le co-lycée de Mme Harris, puis il te donnait le goût d'aller faire du porte-à-porte. Mais maintenant, tu te dis, ouais, je peux aller cogner chez mon voisin pour lui dire de voter pour un ou l'autre. Là, mais c'est un peu surprenant, M. Legault, ce matin, d'arriver avec un tweet comme ça sur un enjeu qui touche les États-Unis, mais pas de féliciter Donald Trump. M. Legault était quand même assez loquace là, au cours des derniers jours par rapport aux protectionnistes américains. Ça lui fait peur. Il y a un enjeu qui perdure depuis des années, qui est le conflit sur le bois d'œuvre, hein, qui n'a pas été réglé, que ce soit démocrate, républicain, à la Maison-Blanche. Barack Obama, là, moi, je travaillais à la Chambre des communes, j'étais chef de cabinet, puis j'étais même sur le parterre où Barack Obama a fait son discours. Tout le monde s'attendait. Là. C'est comme son world tour, là, farewell, là, c'est comme son
ça
tour d'adieu.
Son legs,
ouais, son legs. On était en juin 2016, l'élection était en novembre 2016, puis on pensait qu'il allait parler du bois d'œuvre, M. Obama, puis c'est réglé, puis c'est une façon de finir ça en beauté, puis il l'a pas fait. Fait que ça, c'est sûr que ça préoccupe M. Legault également. Puis on en parlait tout à l'heure, tu sais, ce qui est l'acier dans mon coin de pays, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est sûr, c'est pas agréable. L'aluminium également. Fait que c'est sûr qu'on peut comprendre les préoccupations, mais, je veux dire, à matin aussi, le soleil s'est levé. Bien, là, c'est nuageux ce matin à Québec. Ouais. Là, mais le soleil s'est levé, la terre tourne encore, tu sais. Je suis pas sûr non plus que ça l'aide vraiment le débat, tu sais, puis à créer cette anxiété-là de dire, mon Dieu, ça va être terrible, tu sais, je veux dire. Ça reste qu'on a eu un 4 ans. On a goûté c'est quoi un 4 ans Donald Trump. Là, ça va être les 4 dernières parce qu'il ne pourra pas se représenter dans 4 ans Donald Trump. Mais fait que je pense qu'il faut prendre chacun des enjeux. Mais je pense que autant du côté fédéral que même du côté provincial, ils ont également, c'est comme le gouvernement du Québec, la délégation du Québec à Washington, Benjamin Bélair est là, c'est le délégué. Ils ont une super de bonne équipe, sont bien, tu sais, en bon québécois, sont bien pluggés. Ils vont aider les entreprises québécoises, puis la business, puis le gouvernement du Québec à avoir de bonnes relations avec l'administration Trump. Là.
François Legault vient-il justement saboter le travail qui se fait sur le terrain? Parce que je parlais avec Martine Biron lundi, puis elle disait, on a ajouté des personnes au bureau à New York, on en a ajouté à Washington, D.C. On se prépare à ce scénario-là. On est quand même positif. On envisage d'être capable de continuer à faire de la bonne business avec les États-Unis. Mais là, le fait que le premier ministre est chaotique dans ses communications, ça vient-tu justement saboter le bon travail qui se fait sur le terrain depuis plusieurs semaine?
Je veux dire, je pense pour son gazouille ce matin, je pense pas que Donald Trump va en tenir rigueur. Là. De toute façon, je pense pas que dans ses priorités, là, M. Trump, François Legault est dans sa liste des 48 prochaines heures. Là. Je pense là-dessus. Mais justement, ça, il faut faire attention aussi, justement, dans les déclarations. Là. On sait comment il est Donald Trump. On avait vu comment ça s'était passé avec Justin Trudeau lors du G7 là, à Charlevoix. Une fois que Donald Trump est parti, M. Trudeau était plus comme le critiqué. Donald Trump ne l'a pas pris. Ça ne veut pas dire de faire tout ce que M. Trump veut faire puis le suivre là-dedans. Mais quand même, je veux dire, les Américains, ils ont fait un choix. Mm-hmm. Je veux dire, on peut être pour ou contre ce choix-là. Ouais. On peut les juger. On peut dire que ce n'est pas le choix que nous, on aurait fait. On peut se poser des questions. Mais justement, il faut essayer de comprendre pourquoi les Américains ont voté massivement pour lui. T'sais, on parlait beaucoup des... depuis le rassemblement au Madison Square Garden, on parlait beaucoup de la communauté latino. Là. Mais quand on regarde les chiffres, ils ont voté pour Donald Trump. Mais pourquoi? Il faut se poser ces questions-là. Mais comme Québécois, comme Canadien, dans nos relations, on n'a pas le choix que ça fonctionne avec les États-Unis.
Ouais. Tu soulèves tellement un bon point, Marc-André. Ces élections américaines-là, ça crée tellement de passion, ça soulève les passions, ouais. Évidemment, aux États-Unis, ailleurs dans le monde, ici. Mais il faut se rappeler que la démocratie a parlé, puis en quelque sorte, ça ne nous appartient pas, à nous autres, comme Québécois-Canadiens.
Puis nous, on le suit un peu comme un feuilleton, là, comme une émission de télévision, comme les épisodes qu'on peut regarder à la télé ou sur les plateformes, parce que, ça ne nous concerne pas directement, où on est impacté étant le voisin principal, puis un partenaire commercial très important. Mais, on a une certaine distance aussi. Fait que, on l'analyse, on la comprend. Est-ce qu'on comprend vraiment ce que les gens vivent sur le terrain? Mais je pense que le message hier, il est clair. C'est la politique américaine, puis c'est économie, immigration. C'est ça qui a fait la différence. Là. C'est beau d'apporter au Oprah Winfrey puis Lady Gaga, mais quand tu as de la misère à payer ta facture d'épicerie, payer ton hydro, payer ton logement, ben tu t'en fous un peu des artistes qui ont appuyé l'un ou l'autre à la fin de la journée. Là. Puis je pense que c'est le message, puis probablement que les démocrates vont faire leur état de conscience, puis vont faire un résumé de leur campagne.
Oui, tellement un bon point. Marc-André Leclerc est auteur, conférencier, analyste, chroniqueur, Journal de Québec, entre autres. Toujours un plaisir quand tu passes nous voir. Merci pour ça ce matin, Marc-André.
Merci.
À bientôt.
Bonne journée.
Salut.